depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. On va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales? Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard? C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux. Courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher.
Le 31 août dernier, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'adressait à la nation. En filigrane de son discours, il prenait position face à la situation politique explosive qui a lieu en ce moment au Niger, qui a eu lieu précédemment au Burkina Faso et plutôt au Mali. C'est dire que cette situation assez explosive qui a lieu dans la bande, dans ce qu'on appelle la bande sahélienne, c'est-à-dire toute cette bande qui part un peu de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la frontière du Niger, un peu du Tchad, être sujet en tout cas à des coups. C'est donc en tant que président français que le président Emmanuel Macron prend la parole et vous venez de l'entendre. Mais j'ai envie de dire, Emmanuel Macron est-il le président des Africains ou le président de la France? Parce que pour nous, il est important que les Africains, la société civile, les organisations associatives et politiques, en tout cas qui militent pour un idéal d'unité au sein de l'Afrique de façon générale, donc pour un idéal panafricain, prennent la parole. Et elles l'ont fait. Jumbo, et à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast, ton manuel audio dédié à l'histoire, la culture, la politique, la géopolitique du grand continent. Ce podcast, eh bien, sert à valoriser ce que le grand continent a de meilleur. Jumbo, comme pour te passer le bonjour en swahili. Anitere en maninka. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre et sachez que votre soutien est fortement apprécié. Nous publions notre actualité sur Twitter, Instagram. N'hésitez donc pas à y faire un tour afin de participer ensemble à la grande dynamique d'éveil des consciences et de promotion des peuples africains, mais aussi de la diaspora. En 2020, il y a eu au Mali un coup d'État. C'est-à-dire que des militaires ont pris sur eux de déposer le président en exercice, Ibrahim Boubacar Keïta. La question la plus discutée et qui est en cause concernant la situation au Mali, c'était quel était le rôle trouble des armées d'occupation. Je parlais de l'armée française. C'est en cela que, en 2020, il s'en est suivi injonction de la CEDEAO, négociations, etc. Tout le tralala que nous connaissons et auquel nous sommes habitués. Une première délégation s'est rendue à Paris et a été félicitée par Emmanuel Macron, le président de la France. Cette délégation, à son retour à Bamako, a elle-même été déposée et à partir de là, il s'en est suivi une vague de chamboulement au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt pour nous de vous partager cette situation? En raison du rôle trouble que la CEDEAO a pu jouer, et nous l'avons tous vu, injonction, sanction, alors que cela ne s'inscrivait guère dans leurs prérogatives, la CEDEAO a choisi de sanctionner le Mali. La CEDEAO a par la suite choisi de sanctionner, lorsque cela s'est produit au Burkina, le Burkina. Et la CEDEAO a choisi, actuellement où je vous parle, de sanctionner le Niger parce qu'on a eu également un coup au Niger. Mais quel est le rôle des organisations et militants panafricains, panafricanistes qui ont fourni un effort, en tout cas un effort, un travail intéressant que je me dois de partager avec vous. Il s'agit d'un mémorandum pour une véritable CEDEAO des peuples. Bon, maintenant que l'apéro est terminé, je vous propose d'embarquer. Là, nous allons décoller. Et là, ça va vraiment secouer. Attachez-vous, car nous décollons. Le premier point qui est évoqué par ce mémorandum pour une véritable CEDEAO des peuples, c'est asphyxier le malade après avoir tiré sur l'ambulance. Pourquoi ce thème en tout cas usité? Simplement, je vais vous lire, à l'occasion de vidéoconférences les 20 et 28 et le 7 septembre 2020, consacré à la situation au Mali, et suite aux recommandations de la mission dans ce pays conduite par le médiateur de la CEDEAO, Son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, les chefs d'État de la CEDEAO, préoccupés pour ne pas dire obnubilés par le sacro-saint et exclusivement formel retour rapide de l'ordre constitutionnel, ont décliné, comme à l'accoutumée, le scénario bien connu des transitions démocratiques africaines, si importante aux yeux de la prétendue communauté internationale, réduite, dans les faits, aux dirigeants d'Europe et d'Amérique du Nord lorsqu'il s'agit de décisions concernant l'Afrique. Nomination d'un président civil avant le 15 septembre, délai d'à peine une semaine. Tenue d'élections, délai d'un an pour la transition, embargo, suspension, la potion amère consistant à plaquer un formalisme démocratique sur un corps social exsangue et un territoire disloqué est appliquée une nouvelle fois et ressemble, à s'y méprendre, aux décisions de la CEDEAO après la prise de pouvoir du capitaine Sanogo le 22 mars 2012. Cette démarche mécanique, telle une camisole de force, est également à l'ordre du jour en République centrafricaine. Comme au lendemain de l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso, l'obsession étant le pouvoir présidentiel plutôt que les violations du pacte républicain, rendant ainsi possible l'activation des différentes dispositions constitutionnelles sur le droit de résistance, également appelé désobéissance civile, comme c'est le cas avec l'article 121 de la Constitution de 1992 du Mali, qui condamne également les coups d'État. Encore faut-il distinguer l'attitude patriotique, nous l'espérons, de jeunes officiers témoins de l'expression légitime d'un peuple sans armes, brimé des institutions républicaines corrompues, comme la Cour constitutionnelle du Mali, membre du réseau institutionnel de la francophonie. Donc, membre du réseau constitutionnel de la francophonie, d'un coup d'État destiné à confisquer le pouvoir. Surtout, nous notons qu'aucune force d'intervention, ECOMOG, expression de la solidarité des États et peuples frères, n'est venu, comme ce fut le cas autrefois au Libéria, combattre aux côtés du peuple malien pour contribuer à l'effectivité de sa souveraineté et de celle de l'État du Mali sur un territoire, en tout cas sur son territoire, après la rébellion déclenchée par le MNLA le 17 janvier 2017. Bon, j'espère que jusque-là, tout va bien. J'espère que tu savoures, en tout cas toi qui nous rejoins, j'espère que jusque-là, tu savoures. Petit exercice de lecture, hein. En effet, je ne suis pas auteur de ce mémorandum, mais c'est un document qui a pour visée d'appeler à une CEDEAO des peuples, parce que nous sommes conscients de ce que la CEDEAO actuelle, en tout cas depuis une certaine époque, n'est pas représentative des peuples. Cela va sans dire. Je poursuis alors ma lecture. Au contraire, le chapelet de décisions inscrites à l'article 13 de la Déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 20 août 2020 nous apparaît comme une faute d'appréciation, un coup de couteau dans le dos d'un peuple déjà blessé, spolié de son droit à des élections libres et transparentes, et de la totalité de ses droits économiques, ses droits sociaux et culturels, alors que le Mali, de par sa constitution, se veut une république sociale. La démocratie malienne, faut-il le rappeler, est le résultat de sacrifices ayant abouti lors de la révolution de mars 1991, exactement le 26 mars, comme cela est gravé dans le préambule de la constitution de 92, j'ouvre les guillemets, le peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un état de droit et de démocratie pluraliste, affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991. C'est dire que ce que les chefs d'État appellent pudiquement crise sociopolitique est plutôt l'expression vigoureuse d'une continuité des luttes démocratiques engagées auparavant et dont les manifestations dans la sous-région sont assez significatives. C'est dire aussi que ce qui se joue au Mali intéresse toute l'Afrique et appelle une autre forme d'ingérence que celle enseignée par le sommet susmentionné de la CEDEAO. En effet, la mobilisation de la détermination des citoyens, l'implication de régulateurs sociaux agissant apparemment pour le bien-être général, manifeste une nouvelle prise de conscience politique et démontre l'attachement aux valeurs et principes proclamés par les instruments communautaires et panafricains tels que le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au protocole relatif aux mécanismes de prévention de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, dont l'un des principes cardinaux est la participation effective des citoyens au processus démocratique et de développement et à la gestion des affaires publiques, en parenthèse, article 3. Bon, au stade où nous en sommes, nous sommes en tout cas à un constat que les organisations font. Effectivement, ils nous appellent, en tout cas, il nous appartient de rester attentifs pour écouter le message de ces organisations. Je rappelle aujourd'hui il n'y a pas de podcast dédié à des thématiques que vous adorez tant, que vous affectionnez tant. Aujourd'hui, j'ai pris sur moi, en tout cas votre serviteur a pris sur lui, de vous lire ce mémorandum pour une véritable CEDEAO des peuples, parce que j'ai le sentiment qu'on n'en parle pas assez. J'ai le sentiment que lorsque nous sommes confrontés à une situation des plus exsangues, que nous ne portions pas assez la voix pour apporter une alternative. Et ce mémorandum pour une CEDEAO des peuples est une alternative, est une volonté marquée et affirmée de ces organisations panafricaines de dire avec vigueur, nous sommes là, nous agissons à notre niveau et nous proposons des solutions de sortie de crise. Encore une fois, ne m'en voulez pas, parce que c'est de façon spontanée aujourd'hui que j'anime cette communication. Voilà, donc si vous constatez que j'ai des balbutiements ou que je peux me tromper, ne m'en tenez pas rigueur. C'est simplement que aujourd'hui j'ai décidé d'y aller, voilà, d'y aller franco. Je continue la lecture. L'idée est que nous puissions aller vers un autre chapitre. Je vais donc vous proposer d'aller plutôt vers la suite de ce mémorandum que je découperai en plusieurs parties parce qu'il est assez long. Ces associations, ces organisations que je vous lirai par la suite a pris sur elles de faire le nécessaire pour proposer une alternative, mais qui malheureusement n'est pas écoutée. On peut le constater, la CEDEAO n'écoute pas, les dirigeants n'écoutent pas. C'est un mémorandum qui a été produit en 2020. Et comme le peuple a pour habitude, et je sais que vous êtes dans la même dynamique que moi, de prendre son destin en main, je vous partage donc cette communication intitulée « Mémorandum pour une véritable CEDEAO des peuples ». Et je conclurai cette première partie en disant « L'Afrique a laissé à ses enfants un héritage immense pour assurer sa puissance ». L'Afrique a fait le choix de revenir sur la grande scène de l'histoire, là où s'entrecroisent les valeurs humaines partagées et les défis civilisationnels. Ça se passe au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger et depuis peu au Gabon. Le grand continent refuse désormais le mépris généralisé. Et comme le dit mon grand-père, Zokwezo, un homme vaut un homme. Je suis Arleno, commandant de bord de cette mission et je m'adresse à toi. Le panafricanisme est la philosophie de notre survie. Alors prends soin de toi, car nous sommes le monde. Et je te dis à bientôt de l'autre côté.